Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois Dominique Julien, qui est de l'Institut de la statistique du Québec. Monsieur Julien vient de nous parler d'une recherche en santé mentale auprès des jeunes. À l'espresso et à l'espresso allongé, il sera question des transgenres. Notre collaborateur en début de deuxième demi est Jean-François Plouffe. Il nous parle pour sa part de la garde en santé mentale, principalement des délais et garde provisoire en santé mentale. Alors, c'est le menu de Folie Douce cette semaine. On commence en chanson avec Mathieu Malon et la chanson s'intitule « La coureuse ». Bienvenue à Folie Douce.
Le rendez-vous radiophonique hebdomadaire Folie Douce, qui traite de santé mentale depuis plus de 25 ans.
J'accueille maintenant mon invité qui est Dominique Julien. Bonjour, Monsieur Julien.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à l'émission Folie Douce. Merci. Vous êtes professionnel de recherche à l'Institut de la statistique du Québec.
Oui.
Un organisme qui, en tout cas pour les gens, peut-être nous, on connaît moins en général. Il y a peut-être des gens du milieu qui connaissent bien qu'est-ce que c'est. Puisqu'on va parler en fait de santé mentale, de données sur la santé mentale que vous avez colligé puis mis ensemble. Donc, mais ça serait bien de préciser peut-être ce que c'est l'Institut de la statistique du Québec.
Bien sûr. Donc, en fait, le gouvernement du Québec, une de ses missions que le gouvernement se donne, c'est de faire un peu de la surveillance sur l'état de sa population. Et nous, à l'Institut de la statistique du Québec, on est un organisme gouvernemental qui a comme pour mission là, de fournir des données à la fois fiables et objectives sur la population du Québec. Donc, ça peut aller au niveau là, du taux de natalité, le taux de travail, la santé physique et la santé mentale aussi, là, comme on va parler aujourd'hui.
Et à peu près tous les ministères ont accès, en fait, ont recours à vos services. Vous alimentez à peu près tous les secteurs du gouvernement, comme vous dites, c'est ça?
C'est beaucoup de secteurs. Donc, comme pour ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est plus le ministère de la Santé et des Services sociaux et aussi le ministère de l'Éducation, là, qui sont les partenaires là, qui nous ont mandaté là, de faire l'étude, là, dont, l'enquête là, dont on va parler.
OK. Est-ce que c'est une organisation qui existe depuis longtemps, là, depuis quand même plusieurs années? Ça existe depuis longtemps, l'Institut de la statistique du Québec?
Oui, depuis plusieurs années. Il y a eu une loi votée par l'Assemblée nationale là, qui a comme rallié quatre institutions, comme on y avait Santé Québec et d'autres institutions, là, mais ça fait...
On a tout regroupé ça.
Donc ça fait plusieurs années, oui.
OK. Quand on parle santé mentale, est-ce que c'est nouveau ou on en a déjà fait dans le passé? Parce que dans le fond, c'est une nouvelle étude là, que vous avez, qui est quand même récente, qui a été un peu analysée puis qui est mise en rapport quand même assez récemment, à la fin de l'année 2018, je pense?
Oui, en fait, l'enquête s'appelle l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, donc le QSJS. Il y a eu une première édition en 2010-2011 et on a fait une édition en 2016-2017 en posant pour beaucoup les mêmes questions, justement pour voir comment les phénomènes ont évolué, mais aussi des nouvelles questions pour des nouveaux phénomènes. Donc, on avait à peu près un peu plus de 60 000 étudiants du secondaire dans à peu près toutes les régions du Québec qui ont rempli un questionnaire sur une tablette.
Oui.
Donc, c'était des élèves là, à la fois là, de l'école privée, de l'école publique, à la fois des écoles francophones et anglophones. Donc, ils ont rempli les questionnaires là, de novembre 2016 à peut-être avril ou mai 2017.
C'est un grand échantillonnage quand même. On parle de 60 000. C'est quand même... ça donne du data, ça donne de la matière pour analyser
tout ça. Oui, c'est beaucoup. C'est des études populationnelles. Puis on a interrogé les jeunes sur une panoplie de sujets. Donc, ça peut être leurs habitudes de consommation, d'alcool, de drogue, leurs habitudes de consommation alimentaire, leur comportement sexuel, comment ils se sentent au niveau de leur santé physique, leur santé respiratoire. Donc, un paquet là, de données qui servent pour le gouvernement, ben, comme je le disais un petit peu en introduction, là, avoir une idée un petit peu du portrait là, de la population. Donc, ça sert à identifier peut-être des phénomènes qui sont problématiques, d'autres phénomènes qui vont mieux qu'avant. Donc, eux, ça permet au gouvernement là, comme de déterminer un petit peu des cibles dans lesquelles ils pourraient faire des programmes ou ajuster des programmes qui sont déjà en place, mais qui, selon les données, ne semblent pas nécessairement peut-être là, porter autant de fruits là, que l'on voudrait.
Et à l'intérieur de ce questionnaire-là, il y avait des questions spécifiquement sur la santé mentale, parce que c'est quand même important de savoir aussi le reste, parce que probablement que vous les mettez en relation,
oui,
ces données-là.
Oui, exactement.
Puis qu'est-ce qu'on pouvait retrouver, disons, comme au niveau de la santé mentale? Est-ce que vous avez soit des exemples ou de types de questions? Quelles sortes de questions on pouvait y retrouver?
Oui, en fait, on demandait aux élèves si un médecin leur avait diagnostiqué un trouble de santé mentale, donc soit un trouble anxieux, une dépression, un trouble alimentaire, donc pouvant être de l'anorexie ou de la boulimie, et aussi le TDAH. Donc, on a vraiment posé des questions sur des diagnostics comme tels, mais on a aussi posé d'autres questions là, qui se rapprochent là, de la santé mentale.
Est-ce qu'on connaît mieux avec... on va certainement aussi avoir des résultats, vous allez nous en donner, mais est-ce qu'on réussit à connaître mieux l'état de santé mentale, disons, dans ce cas-ci des jeunes, en faisant une étude comme ça? J'imagine que vous êtes sûrement satisfait là, de l'effort qui a été mis en place puis du résultat.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. On en connaît... on en connaît mieux. Puis comme je dis, on peut comparer aussi avec il y a 5-6 ans. Donc ça nous permet de voir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, puis qu'est-ce qui reste stable aussi. Donc, vous allez voir, plusieurs là, données là,
oui.
Intéressantes.
Ce serait intéressant de les écouter, justement. Qu'est-ce que vous avez ressorti de ces... Êtes-vous d'abord une grande équipe qui travaille sur le sujet? Il y a beaucoup de personnel qui travaille sur ça?
Oui, au niveau des, bon, on avait, en fait, le rapport qu'on a publié, il y avait trois chapitres, trois, en fait, trois tomes, un tome plus méthodologique et deux tomes vraiment là, sur les résultats, là, sur les différents thèmes. Donc, au niveau des rédacteurs, là, pour les thèmes, on était peut-être là, quelque chose là, comme entre 6 et 8, mais au niveau là, de la collecte, au niveau là, de. Parce que des gens se sont vraiment rendus dans les écoles, dans plusieurs
On
régions.
parle de 60 000 jeunes, là, fait que ça fait du
C'est
monde à aller
ça,
voir, là,
exactement.
effectivement.
Donc, au niveau de la collecte, au niveau là, de l'entrée des données, l'analyse des données et
Ouais.
tout, là. Donc, oui, là, c'est.
Un grand processus. Donc, ça, M. Julien, quels sont les résultats? Comment vous pouvez nous présenter ça? Est-ce qu'on va pas évidemment tout présenter d'études parce que j'imagine que c'est quand même assez volumineux, puis on pourrait sûrement donner à la fin de l'entretien les coordonnées si c'est disponible quelque part en ligne, mais les grandes lignes ou les faits saillants, vous pouvez y aller comme bon vous semble, en
Oui,
fait.
ben, en fait, un premier résultat, c'est qu'on peut dire qu'il y a environ un élève du secondaire sur cinq qui présente soit des troubles anxieux, une dépression ou des troubles alimentaires. Donc, un sur cinq. Donc, si on regarde trouble par trouble, c'est à peu près 17 % pour les troubles anxieux, à peu près 6 % pour la dépression, puis un peu plus de 2 % pour les troubles alimentaires. Au niveau du déficit, du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, on parle d'environ 23 % des élèves qui rapportent qu'un médecin leur a dit qu'il souffrait présentement là, d'un de ces troubles.
Près de 1 sur 4, dans le fond, 23 % c'est quand
Oui,
même
oui.
beaucoup. On en entend beaucoup parler, mais on ne croirait pas que c'est aussi répandu, là.
Oui, donc 1 sur 4, puis 1 sur 5 qui aurait un des autres troubles. Puis ce qu'on a trouvé, c'est que tous ces troubles-là sont en augmentation par rapport à il y a 5-6 ans. Donc, il y a plus d'élèves qui rapportent ces troubles-là. Donc, troubles anxieux, dépression, troubles alimentaires, le
Oui.
TDAH.
Est-ce que vous vous êtes posé la question si les gens, est-ce que c'est parce qu'ils en parlent plus ou si réellement il y en a plus? Parce que est-ce qu'en 2010, peut-être les gens, on dit toujours que c'est tabou la santé mentale, plus ça va avec les campagnes de. Est-ce que ça peut jouer dans les résultats aussi,
En fait,
peut-être?
c'est une excellente question. Quand les gens viennent à essayer d'expliquer bon, pourquoi ça l'augmente, en fait, il y a comme deux optiques, si on veut. Donc, il y a l'optique un petit peu comme vous le suggérez, mais c'est peut-être que justement, la santé mentale, on en parle plus. Donc, on connaît mieux les symptômes. C'est peut-être moins stigmatisant qu'avant d'aller voir un psychologue, par exemple, ou de dire qu'on présente une problématique. Donc, il y a des gens qui sont plus tenants de cette approche-là. Par contre, il y en a d'autres qui vont dire que, ben, il y a des changements au niveau de la société. La société est plus individualiste, il y a plus de compétition. Au niveau du style de vie des adolescents, beaucoup de temps passé devant les tablettes, la cyberintimidation, des changements au niveau de la structure sociale, de plus de familles monoparentales reconstituées. Donc, il y a des gens qui vont dire que c'est vraiment comme des changements dans la société qui peuvent peut-être faire en sorte qu'il y a plus là, de troubles. Donc, je peux pas vraiment comme trancher entre les
Oui.
deux optiques, mais on retrouve quand même là, ces deux optiques-là.
Oui. Parce que dans le fond, vous autres, vous rapportez, quand vous travaillez sur ça, vous rapportez ce qui se passe, c'est le portrait actuel de.
C'est ça.
Fait que c'est
Donc,
ça.
on a vraiment posé la même
Oui.
question qu'en 2010-2011 et on remarque une augmentation. On trouve aussi que ces troubles-là, à part le TDAH, sont plus présents chez les filles que chez les garçons. Donc, ça semble plus toucher les filles que les garçons. Par contre, c'est quelque chose qu'on remarque aussi là, ailleurs dans la littérature. Et ça dépend aussi en fait, des troubles qu'on a regardés. Parce qu'il y a des troubles qu'on retrouve plus chez les garçons qu'on n'a pas regardés dans l'étude, comme par exemple les problèmes de consommation, les problèmes de délinquance. Donc, il n'est pas dit que si on mettait plusieurs troubles ensemble, les filles seraient encore comme plus touchées, mais vraiment dans les troubles qu'on a regardés, les filles sont sont plus touchés que des garçons.
Et dans une étude comme ça, je pense qu'il faut se donner des limites, parce que c'est beau ramasser du data, ramasser des données, mais il faut arriver à un certain moment, j'imagine, à sortir l'essentiel, parce qu'on pourrait toujours creuser, mais jusqu'à quel point vous dites, mettons, on veut faire avancer, mais en même temps, on veut... peut-être ramasser tout ça puis faire du sens, puis surtout être capable peut-être de le refaire dans quelques années ou de suivre l'évolution.
Oui. En fait, nous, c'est ça, dans le rapport, on fait des analyses un peu plus descriptives, donc des analyses de base. Par contre, les données sont disponibles pour les chercheurs qui en font la demande, donc comme pour faire des analyses peut-être plus poussées. Donc là, on parle de, si on veut, de santé mentale, mais on a fait plein de liens qui peuvent être faits justement avec le type de famille, avec la pauvreté, avec les habitudes alimentaires, les activités sportives. Donc, il y a moyen là, de faire toutes des études comme ça.
Oui. Avez-vous une autre donnée?
Oui, mais en fait, quelque chose d'intéressant, parce que là, on parle de ce qu'on a évalué un petit peu, ce qui va mal, mais on a aussi évalué ce qui va bien. Donc, ce qu'on appelle la santé mentale positive. Donc, à quel point les jeunes vivent des émotions positives, à quel point ils sentent qu'ils peuvent contribuer à la société, jusqu'à quel point ils sentent qu'ils sont autonomes. Et ce qu'on a trouvé, c'est que même parmi les gens qui présentent des problèmes de dépression, d'anxiété ou de troubles alimentaires, il y a le tiers de ces gens-là qui rapportent quand même avoir une santé mentale positive quand même assez élevée. Donc, c'est dire que même si quelqu'un a un trouble anxieux, cette personne-là est quand même capable d'éprouver du plaisir dans sa vie, de faire du bénévolat, de se sentir autonome. Donc, pas pour minimiser la souffrance que ces gens-là vivent, mais pour dire un message d'espoir, si on veut, que malgré tout, malgré un trouble, il est quand même capable d'avoir une vie. Les gens sont quand même capables d'avoir une vie satisfaisante. Puis c'est à peu près, donc je dis à peu près le tiers qui ont ça, puis à peu près la moitié qui avait une vie, une santé mentale positive quand même modérément bonne. Donc c'était peut-être pour 15% de ces gens-là là, que c'était comme, que ça semblait comme vraiment problématique.
Très intéressant. M. Julien, en terminant, ça passe vite, mais il y a beaucoup de données. Les gens qui veulent en savoir plus, on cherche quoi sur Internet pour peut-être avoir accès à la recherche?
Oui, donc vous pouvez aller sur le site là, de l'enquête. Donc, c'est eqsjs.stat.gouv.qc.ca. Donc, eqsjs.stat.gouv.qc.ca.
Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Donc, M. Dominique Julien, professionnel de recherche à l'Institut de la statistique du Québec. Merci et à une prochaine.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie Douce sur Facebook. Parlons santé mentale.
C'est maintenant le moment du bloc espresso. Donc, Pierre Laporte, bonjour.
Salut, Yvan.
Et bonjour, Justin Malo.
Bonjour.
Alors, le sujet que tu nous amènes aujourd'hui, tu vas nous parler des transgenres.
Les transgenres, oui, c'est un sujet dont on n'avait jamais parlé.
On entend beaucoup parler de ces temps-ci.
C'est très à la mode,
ouais,
par les temps qui
depuis quelques années, on entend beaucoup. Hein.
Oui, en tout cas, moi, j'en avais jamais parlé pour les espressos. Et être transgenre, en fait, c'est pas une maladie mentale, c'est sûr, mais ça peut amener à la dépression, et la dépression sévère, même chez les enfants qui arrivent pas à se reconnaître dans leur propre sexe, si on veut dire. Alors, je vais commencer par un article que j'ai trouvé sur le site psychologue.net. On nous dit que pour la plupart des personnes, il n'existe que deux genres. L'homme et la femme, dont la constitution et le comportement sont particulièrement liés au sexe biologique. Or, les personnes transgenres sont celles qui ne s'identifient pas avec leur genre à la naissance. Si on recule dans le passé, au 19e siècle, avec les progrès de la biologie, les scientifiques occidentaux établissent comme une vérité absolue le fait que ce n'est pas Dieu, mais la nature qui crée les différences entre hommes et femmes. Pour certains idéologues, c'est le moyen de prouver que les hommes sont naturellement hommes et les femmes naturellement femmes en raison de leurs organes, de leurs gènes et de leurs hormones. Or, au fil du temps et des découvertes scientifiques, ces idées sont peu à peu démantelées. La femme n'a pas de prédisposition à l'hystérie, plus qu'elle n'en a à lire des romans d'amour, et les hommes n'en ont pas plus pour allumer un feu ou changer une roue.
Ça, c'est le gros débat. Est-ce que c'est l'identité? Est-ce que c'est biologique ou ouais. C'est une construction culturelle?
Ouais.
C'est probablement un mélange des deux parce qu'on ne peut pas nier notre biologie. Et on vit dans des sociétés qui teintent notre caractéristique. C'est probablement la meilleure réponse, c'est une réponse très dans le milieu, c'est probablement un mélange des deux.
Mais peut-être plus biologique. Selon moi, ça serait plus biologique. Peut-être un petit peu comme tu dis.
On vit dans des sociétés précises. Moi, je crois pas que c'est une construction culturelle. Je crois que les deux peuvent être mélangés. Moi, je suis parfaitement content d'être un homme. Je peux pas rien faire.
As-tu déjà changé une roue?
Moi, j'ai pas d'habileté manuelle. Moi, je vais massacrer la roue.
Ça plus
que
la changer. Une roue de croix.
Alors, je continue ma lecture de cet article. On nous dit tout ce qui était admis il y a 100 ans nous semble aujourd'hui totalement révolu, voire farfelu. Pourquoi, dans ce cas, ne pas admettre que nos certitudes actuelles reposent, elles aussi, sur des préjugés? La question du genre est particulièrement épineuse en ce sens. On considère encore souvent fermement qu'il n'existe que deux genres, l'homme et la femme. La langue française même n'est pas faite pour laisser la place à d'autres genres. Et pourtant, les scientifiques ont découvert, tenez-vous bien, qu'il n'existait pas seulement deux sexes, mais 48. C'est-à-dire qu'entre l'homme à 100% et la femme à 100%, il existerait environ 46 intersexuations. Chaque personne serait elle-même constituée entre 10 et 40% des marqueurs biologiques de l'autre sexe. Pour comprendre les notions de genre, de sexe et d'identité, il est important de redéfinir des concepts de base que l'on a parfois tendance à mélanger. Il y a en effet trois réalités à propos du sexe et de l'identité qui ne sont pas liées mais qui sont souvent confondues, comme par exemple les attributs sexuels. Ils n'ont aucun lien avec l'identité. Tout sexe peut cohabiter avec toute identité. C'est ce qu'on nous dit.
C'est ce qu'on appelle ça l'âge de la confusion. Là.
Mais ça devient complexifié encore plus. Je pense qu'dans les prochaines années, ça va être... tellement difficile à gérer tout ça que...
Je pense que beaucoup de gens sont confus aussi, c'est-à-dire énormément. Là.
Ouais. On nous dit aussi l'identité. C'est la personne que l'on est indépendamment de ses attributs sexuels. Et la sexualité, elle n'est ni liée ni au genre, ni au corps. Tout genre peut coïncider avec toute identité. C'est ce qu'on nous dit ici. La pilosité, les vêtements, le maquillage, le ton de la voix sont appelés expressions de genre. Ce sont des marqueurs que l'on peut ou non contrôler et qui n'ont aucune influence sur l'identité. Être d'un genre ou d'un autre peut influencer la manière dont ces marqueurs s'expriment, mais ne définit en rien l'identité de la personne. Porter des habits de femme ne signifie pas être une femme. Lorsqu'un enfant naît, on lui attribue le genre qui correspond à ses attributs sexuels. Ainsi, une personne cisgenre est une personne dont le genre correspond à celui qu'on lui a assigné à la naissance, et une personne transgenre ne se reconnaît pas dans celui qu'on lui a assigné à la naissance.
C'est, moi, je pense que c'est cisgenre. Là, j'ai pas, j'ai pas de doute. Là, ouais. C'est sûr, premièrement, on a des variations entre les hommes et les femmes. On n'est pas, même entre les gars, on n'est pas tous pareil. C'est pas d'être, c'est comme on est des et hommes, mais on n'est pas pareil.
Et même 48, à rigueur, il y en a autant qu'il y a de personnes, à mon
avis. C'est complexe, ça fait rien. C'est ça.
Il faudrait que je revienne là, sur les 48.
C'est une surabondance d'identité.
Alors, on nous dit dans l'article, la non-reconnaissance de son sexe biologique peut apparaître tôt et des enfants peuvent montrer dès l'âge de 3 ou 4 ans qu'ils sont transgenres. Il est fondamental pour toutes les personnes d'avoir l'appui d'un psychologue spécialisé dans les questions de genre et notamment pour les enfants afin qu'ils puissent passer à travers ce processus. Mais je vais continuer un peu plus tard.
Tu as juste mis la table dans le fond, on va pouvoir poursuivre à l'espresso allongé. Merci Pierre, merci Justelin.
Merci.
Retour au micro à Folie Douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles.
C'est avec joie que j'accueille à nouveau notre chroniqueur, Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à Folie Douce.
Merci.
Tu es d'Action Autonomie. On va donner évidemment à la fin aussi les coordonnées d'Action Autonomie. Toujours là, prêt à aider les gens justement en défense de droits et tous les sujets qui peuvent toucher la santé mentale. On va parler cette semaine, c'est un sujet que tu nous amènes, c'est la garde, en fait les délais et garde provisoire en santé mentale.
C'est ça. En fait, on sait que les hôpitaux, les médecins ont la possibilité de priver les personnes de leur liberté quand ils considèrent que leur état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour quelqu'un d'autre.
Ouais.
Donc, il y a trois phases dans ce processus-là. Le premier, c'est la garde préventive. Donc, c'est une période maximale de 72 heures pendant laquelle l'hôpital peut garder une personne sur un simple avis du médecin, sans son consentement, sans le consentement de la personne, sans aucune autorisation du tribunal et sans aucun examen de son état mental.
Ouais.
Ça, c'est ce qu'on appelle l'exception dans l'exception, c'est que c'est vraiment l'hôpital qui a le plein contrôle, mais c'est une période qui ne doit pas durer plus que 72 heures. Si l'établissement veut prolonger la garde au-delà de 72 heures, il doit obtenir une autorisation de la Cour du Québec. Mais pendant cette période-là de garde préventive, il faut qu'il y ait, à un moment donné, une évaluation de l'état mental de la personne.
Mm-hmm.
Si on veut obtenir une garde plus longue, il faut déposer au tribunal une évaluation de la santé mentale, de l'état mental de la personne. Et ça, c'est, au terme de la loi, considéré comme un soin auquel la personne peut consentir. Donc, si la personne ne consent pas, ou si la personne n'est pas en état de consentir parce qu'elle serait en rupture de contact avec la réalité ou autrement, l'hôpital ne peut pas décider de son propre chef qu'on va procéder quand même. Il faut demander l'autorisation du tribunal à ce moment-là, dans une espèce de démarche préliminaire pour obtenir une garde provisoire.
Est-ce que c'est quand même rapide, ça? Parce qu'on dit toujours les tribunaux, c'est un peu long processus, ça, mais dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'ils peuvent obtenir rapidement?
C'est des procédures qui sont très, très, très rapides. Généralement, c'est à l'intérieur de 24 heures.
OK. C'est
un problème aussi parce que les gens n'ont pas l'occasion, n'ont pas le temps de préparer leur défense. C'est une autre difficulté. Mais de toute façon, cette garde préventive, elle n'est à peu près jamais demandé par les hôpitaux.
Okay.
Ce qu'ils font à la place, c'est qu'ils étirent indûment, illégalement, la période de temps de 72 heures pour faire l'évaluation de la personne durant la garde préventive. Donc, ils ne l'informent pas qu'ils sont en train de faire une évaluation et ils ne l'informent souvent pas non plus de la finalité de cette évaluation-là.
Ouais.
On ne l'évalue pas pour la soigner, on l'évalue pour constituer une preuve devant le tribunal dans le but de la priver de sa liberté. Ouais.
Est-ce que, en général, les patients, est-ce qu'ils sont conscients de ça? Parce que tu en parles souvent, tu sais, de ce genre d'informations-là à la radio, chez nous. Mais est-ce que les patients sont conscients qu'ils ont des droits et justement, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils le savent? Là?
Ils ne sont pas conscients, c'est bien normal. L'ensemble de la population ne connaît pas ces subtilités-là, ouais, de la loi. Ouais. Et quand on est pris dans une situation comme celle-là, c'est certain qu'on n'a pas fait de recherche, puis on n'a pas des moyens, de toute façon, de faire de recherche là-dessus. Quand on est hospitalisé, généralement, on est porté à se laisser porter là, par une vague. Et donc, les gens, non, ne sont pas au courant. Et les hôpitaux ne remplissent pas leurs responsabilités puisqu'ils ne les informent pas. Donc, ils n'obtiennent pas leur consentement à l'évaluation psychiatrique. Et non seulement ils n'obtiennent pas de consentement, mais ce consentement-là ne peut pas être libre et éclairé, même, ouais, s'ils l'obtenaient, puisqu'il faudrait leur dire « on est là pour vous priver de votre liberté, finalement ».
Donc, la solution, est-ce que c'est que les proches soient informés pour les aider? Parce que, tu sais, vous ne pouvez pas être partout avec son autonomie, non, on vous appelle, mais est-ce que c'est peut-être une idée de dire ben, « soyez en compagnie de quelqu'un, d'un proche qui est au courant un peu de la... » sans être un avocat, mais être au courant un petit peu de la loi puis de ce qu'il peut faire, là?
Mais c'est très difficile, parce que peu de gens connaissent cette mécanique-là. Ouais. Et ce sont les établissements qui ont la responsabilité d'informer les personnes. Et je vous ai amené quelques chiffres sur le nombre de gardes provisoires qui sont demandées par les hôpitaux pour vous montrer à quel point c'est un processus qui est escamoté. Ouais. À l'Institut Douglas, en 2014, on a demandé 227 gardes autorisées pour des périodes de 21 à 30 jours, généralement. On a demandé 29 gardes provisoires, donc à peine une sur 10. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà mieux que l'Institut universitaire en santé mentale, l'ancien hôpital Louis H. Lafontaine, qui a demandé 447 gardes autorisées, mais seulement 5 gardes provisoires en 2014. L'hôpital du Lakeshore a demandé 108 gardes autorisées et une seule garde provisoire. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, 94 gardes autorisées, une seule garde provisoire. Donc, les hôpitaux agissent systématiquement de façon illégale parce que, avec des chiffres comme ça, c'est impossible que l'immense majorité, que 99% des personnes aient donné un consentement libre et éclairé à l'évaluation
psychiatrique. Mais rappelle-nous pourquoi c'est si important, parce que ça a l'air faire l'affaire des hôpitaux, ça a l'air être plus simple pour tout le monde. Pourquoi on veut absolument...
C'est effectivement plus simple parce qu'on n'a pas besoin d'aller deux fois devant le tribunal. Okay. On va n'y aller qu'une seule fois.
Okay.
On va faire l'évaluation psychiatrique sans le consentement et souvent même à l'insu des personnes. Les gens ne sont pas conscients qu'ils subissent une évaluation psychiatrique.
Ils sont pas, au moment que ça se fait, ils n'ont pas l'impression que c'est une évaluation.
Ils ne réalisent pas ce qui se passe.
Ils ne comprennent pas. Il y a une gravité, là, il y a des impacts qui vont suivre à ça.
Oui, parce que l'impact, c'est de les priver de leur liberté pendant un mois. C'est quand même pas rien. De les emprisonner à l'hôpital pendant une période d'un mois. Et on ne leur dit pas. Et on les garde déjà en garde préventive beaucoup trop longtemps, deux fois trop longtemps, en général autour de 6 jours. Et par la suite, on obtient à peu près systématiquement la garde autorisée de la part du tribunal.
Mais dans un sens, pourquoi l'hôpital se bat tant que ça pour justement être capable de garder les... Est-ce que c'est un avantage de garder les patients?
Oui, il y a un avantage pour les hôpitaux, c'est que d'abord, ils ont les personnes à portée de la main. Donc, ils n'ont pas besoin de donner des rendez-vous à laquelle la personne risque de ne pas se présenter, etc.
Facile à gérer pour eux.
C'est plus simple à gérer pour eux. Ils prennent un espèce de contrôle sur la personne. Ils s'assurent que les médicaments, ils testent l'efficacité des médicaments ou l'effet des médicaments sur les personnes. Et tout ça sans que la personne, dans beaucoup de cas en tout cas, qu'on l'interroge ou qu'on l'associe d'une manière ou d'une autre au déroulement de son traitement. Ouais. Et donc, nous, on voit là qu'il y a systématiquement des actions illégales qui sont posées par les hôpitaux. Premièrement, parce qu'ils n'obtiennent pas le consentement des personnes, et aussi et surtout parce que la garde préventive est deux fois trop longue. Mmh. On garde les gens sans jugement pendant 5, 6, 7 jours des fois. Et nous, on est en train d'entreprendre une démarche de recueil de témoignages autour de ça, de recueil de cas types, pour éventuellement être capable de dénoncer cette situation-là qui se déroule à grande échelle, qui a lieu tous les jours, tout le temps, avec à peu près tout le monde. Et on essaie de mettre en place des moyens de faire en sorte que ça cesse.
Donc vous faites un appel, en fait, aux gens du public qui nous écoutent, qui pourraient avoir vécu ce genre de situation-là. Les gens vont se reconnaître, j'imagine, d'après la description que tu nous donnes.
C'est ça. Donc, s'il y a des gens qui ont été gardés au cours des trois dernières années, depuis le début de l'année 2016, qui ont fait l'objet d'une garde en établissement, qui ne se rappellent pas d'avoir consenti à un moment donné à une évaluation psychiatrique, et qui ont été gardés finalement, souvent qui ont même pas eu conscience qu'il y a eu des démarches en cours, de fait, ces personnes-là, on aimerait ça qu'ils nous contactent, pour qu'ils puissent partager avec nous ces expériences-là, de façon que nous, on puisse documenter ça de façon encore plus précise, puis être capable d'avoir des arguments encore plus décisifs là, dans nos interactions avec les hôpitaux et avec les tribunaux.
Ouais.
Et surtout pour faire en sorte, à moyen terme, là, que les hôpitaux fassent comme l'ensemble des citoyens du Québec, puis qu'ils se conforment aux lois qui les concernent.
Parce qu'on sait qu'Action Autonomie a eu souvent justement des bonnes initiatives de monter des dossiers, de faire des rapports, des études, puis qui se rendent très souvent, justement, aux dirigeants, là, aux gens.
D'autant plus que ces recherches-là que nous on fait, il n'y a personne d'autre qui les fait.
Il faut qu'il y ait quelqu'un qui les fasse.
Ben, c'est ça. Sur le fonctionnement de la loi P38, en général, ni le ministère, ni les hôpitaux, personne ne documente ça si nous, on n'est pas là pour le faire. On le fait depuis 20 ans. On est maintenant capable là, de démontrer une évolution du mode de fonctionnement, de l'application de cette loi-là. On sait que depuis 20 ans, ça ne va pas de mieux en mieux. Ça va de pire en pire. Elle est de plus en plus appliquée, la loi P38, pour des périodes de plus en plus longues, avec un nombre sans cesse croissant de gens. Donc, ça devient problématique. Puis, c'est une loi d'exception, là. Il ne faut pas oublier que c'est une loi d'exception qui suspend des droits fondamentaux.
Ouais.
Et
c'est supposé être d'exception, mais là, c'est traité de façon comme plus régulière.
Ben, c'est ça. En 2014, il y a eu 3000 personnes qui ont fait l'objet de cette mesure d'exception-là à Montréal. C'est beaucoup.
T'sais, on aurait pensé ça dans les années 70-80, mais là, aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut avoir comme évolution du système de santé, c'est assez dur à croire qu'encore autant de 3000 personnes, c'est beaucoup quand même.
C'est énorme. D'autant plus que dans beaucoup de cas, la preuve, par ailleurs, là, la preuve de leur dangerosité n'est pas toujours faite non plus.
Ouais.
Donc, il y a vraiment quelque chose là de problématique et de grave que nous, on veut dénoncer. Et pour le dénoncer, ben, il faut avoir des témoignages. Et donc, on invite les gens à nous contacter pour nous parler de l'expérience qu'ils ont vécue.
Et la meilleure façon, c'est justement de vous appeler par téléphone ou courriel, j'imagine.
C'est de nous téléphoner au 514-525-5060. Et vous pouvez aussi nous écrire par courriel En fait, notre site Internet, c'est actionautonomie.qc.ca.
Exactement. Puis de là, il y a la possibilité
de nous contacter. Donc, on invite vraiment les gens à nous en parler parce qu'il ne faut pas garder ça pour soi. Il faut vraiment, il y a vraiment là une occasion de faire œuvre utile, là, puis de faire en sorte que ça cesse de se reproduire aussi systématiquement dans le futur.
Oui, Jean-François, en peut-être une minute, juste de rappeler peut-être un peu aussi la mission, c'est bon à l'occasion de le dire, là, Action Autonomie, comment on peut le décrire? L'organisme qui est bien présent dans notre milieu depuis longtemps. Là.
En fait, nous, on est dans la défense de l'ensemble des droits des personnes en lien avec leur santé mentale. Donc, ça a beaucoup rapport avec les relations avec le milieu hospitalier, mais ce n'est pas que ça. Il y a, par exemple, toute la question du droit du logement. Quand une personne se fait demander par un propriétaire au moment de louer un logement si elle a des antécédents en psychiatrie, bien, il y a un problème là. Quand une personne postule un emploi et se fait demander si elle a un antécédent en psychiatrie ou si elle demande un congé de maladie pour raison de santé mentale puis qu'elle se rend compte qu'elle a de la difficulté à réintégrer son emploi par la suite, il y a tous ces genres de problèmes-là qui arrivent et dans lesquels nous, on est actifs aussi.
Puis vous avez une longue feuille de route là, en termes d'expérience, puis de suivi, puis peut-être des façons de faire, là, puis d'accompagner. Vous accompagnez, ça c'est important de le dire aussi.
Oui, effectivement, on accompagne les gens. On fait beaucoup de ce qu'on appelle de l'aide individuelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous appellent, qui nous racontent leurs problèmes et nous, on tente de les outiller pour qu'ils puissent s'en sortir le mieux possible. On leur donne les outils pour qu'eux-mêmes puissent faire valoir leurs droits par la suite. Ouais. On ne fait pas pour les personnes, on fait avec les personnes.
En en terminant, peut-être de rappeler le téléphone justement d'Action Autonomie pour les gens qui veulent entre autres participer à ce recueil de témoignages.
Oui. Alors c'est le 514-525-5060.
Merci beaucoup Jean-François Plouffe d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci à vous.
Au revoir.
On sort en trombe, en ombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you-you stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays. L'affiche et couleur sang, les manouchiens, viens pas d'auvers, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans, mais on en aura jamais 60, car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes. Donc nous on pend Peter Pan, on va redevenir adultes. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage, et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné ça va de soi. Angela qui est fan de choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Codépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé. Braqué à RER, diligence, l'Apache de Belleville viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée.
Syntoniser l'émission Folie Douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale.
Nous poursuivons sur le sujet entamé plus tôt, Pierre Laporte et Justine Malo. Les transgenres, tu as réussi à mettre la table, mais on attend beaucoup d'informations.
Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Alors, je vais commencer, je vais poursuivre l'article que j'ai trouvé sur le site psychologue.net qui s'appelle « Que signifie être transgenre ?» Alors, on dit ici, quelle est la différence entre transgenre et transsexuel? Dans les deux cas, les personnes sentent un inconfort au niveau biologique, mais ces deux termes englobent une différence marquante. On nous dit, le transsexuel, il s'agit d'une personne pour qui leurs attributs sexuels ne correspondent pas à l'identité et qui ont un fort besoin de modifier leur corps, par exemple à travers une thérapie hormonale ou une chirurgie. Alors que le transgenre, il s'agit d'une personne qui ne se reconnaît pas entièrement du genre qu'on lui a assigné à la naissance, mais qui ne ressent pas forcément pour autant le besoin de modifier son anatomie. Et l'expression de genre est donc quelque chose de très subjectif. Elle passe principalement par le ressenti.
Oui, moi, si je ne suis pas un parent, j'ai pas d'enfant, mais si j'aurais un enfant qui veut changer d'identité sexuelle, c'est sûr qu'il faut qu'il aille consulter un psychologue. Premièrement, comme parent, je ne suis pas assez compétent. Je veux quelqu'un qui est neutre pour y amener, à dire à cheminer. C'est pas de dénier de le faire ou pas. C'est juste que quelqu'un qui lui permet d'avoir un air de comme on dit, de respiration, dans le sens que pour lui permettre de comprendre.
Et pour être certain que c'est bien ça, c'est quand même pas quelque chose de léger, c'est quelque chose d'important.
C'est pas de le dénier l'enfant, c'est juste. Puis pour moi, je peux juste le supporter, mais je peux pas faire plus que ça.
Oui, mais on en parle ici là, des psychologues. Le transgénérisme n'est pas une maladie. Cela n'est pas contagieux. Il ne se transmet pas aux enfants, tout comme il ne s'agit pas d'un effet de mode. On recense en effet de plus en plus de personnes qui admettent être transgenre, mais cela tient plus du fait que la parole se libère de plus en plus autour de cette question. Pour autant, ce n'est jamais facile de faire face à des sentiments et conflits provoqués par le fait de ne pas se reconnaître dans le genre à la naissance et de s'accepter comme transgenre. L'aide d'un psychologue peut être très utile car le professionnel ne verra pas cela comme une pathologie, mais tentera de dresser un état de votre vie et de mettre à jour vos peurs et vos désirs.
C'est important qu'il soit neutre, par exemple, ni influencé. Ni dénier.
Oui, exactement. Être transgenre peut être une possibilité parmi d'autres d'exprimer son identité comme d'autres l'expriment en étant cisgenre. Il est important de pouvoir vivre son identité de genre de la manière dont on se sent le mieux et pour cela, être bien entouré est crucial. Et maintenant, dans un autre article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « L'enfant transgenre ». C'est écrit par Mme Sophia Lessard, sexologue et auteure québécoise, qui est décédée le 1er janvier 2017 à l'âge de 45 ans. J'ai trouvé ça sur le site educatou.com. Mme Lessard nous disait « Un enfant ne choisit pas d'être transgenre. Il s'aperçoit graduellement qu'il est différent des enfants de son entourage et apporte cette conviction avec lui à l'adolescence. Le rôle du parent est capital pour le bien-être de l'enfant. En grandissant, les enfants transgenres vivent du rejet et sont plus souvent victimes d'intimidation, de stigmatisation et d'isolement social. Il est conseillé de consulter un spécialiste lorsque l'enfant persiste à s'ancrer dans au moins un des quatre comportements suivants. Premièrement, il adopte des attitudes, des rôles et des comportements qui n'appartiennent pas à son identité de genre. Deuxièmement, il nie de façon absolue la nature de son sexe. Troisièmement, il est convaincu d'appartenir à l'autre sexe. Et quatrièmement, il s'imagine dans l'avenir en ayant le sexe qui n'est pas le sien. En conclusion, Mme Lessard disait « Un conseil, ce n'est pas parce qu'une personne porte un titre de spécialiste ou de thérapeute, exemple sexologue, psychologue, médecin, etc., qu'elle est systématiquement spécialisée pour les enfants et qu'elle a les compétences pour travailler avec les enfants transgenres. Si vous cherchez un spécialiste pour votre enfant, assurez-vous qu'il comprend la dynamique de l'enfant transgenre et que sa démarche de travail n'a pas comme but de convaincre votre enfant de correspondre à son sexe anatomique ou à corriger les comportements qui ne cadrent pas avec les normes sociales actuelles. Ce professionnel doit plutôt considérer le bien-être de tous les membres de la famille. » Et en terminant, elle nous disait « Si tous les enfants de la Terre se sentent aimés et acceptés pour ce qu'ils sont, le monde sera beaucoup plus léger et en paix. »
Moi, je peux dire, en fait, juste en commençant, en fait, je me demande si des fois on s'accroche pas trop les pieds dans les fleurs du tapis, tu sais, sans enlever la souffrance que les gens ressentent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, comme tu disais tantôt, il y a peut-être des gens qui parlent, qui n'osaient pas parler autrefois, puis qui vivaient dans la souffrance, mais des fois, je me pose la question, est-ce qu'on est rendu trop à essayer de... peut-être trop poussé sur ce côté-là.
On essaie, ça va être pendant longtemps, il va y avoir un affrontement entre les gens qui sont obsédés par la biologie autant que est-ce que c'est inné ou appris culturellement.
Ouais.
Ça va être bien confus pour beaucoup de monde.
Merci beaucoup pour ta participation, Justin. Merci Pierre pour le sujet des transgenres, donc à Folie Douce.
Je suis venu te dire que tu peux changer.
Aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème! Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
Pour conclure ce rendez-vous de folie douce, Ghislain, on va nommer les chansons entendues cette semaine.
Oui.
On a entendu La Coureuse.
Oui, de Mathieu Malon.
On a pu entendre Naufrage, un jeu de redis.
Oui, bien sûr, de Of Course.
Oui, on a entendu dans la deuxième demi de l'émission Irruption.
De Gaël Faye.
Et à l'instant, Fille de personne
deux. De Hubert Lenoir.
Merci beaucoup, Ghislain, pour votre choix musical à toi et à Pierre.
Merci.
Merci pour ta participation également. Pierre, également, merci pour la mise en onde.
Bienvenue.
Ainsi que tes blocs Espresso et Allongé, où tu nous as parlé des transgenres. Mm-hmm. Merci pour ça. On a eu notre invité en début d'émission, Dominique Julien, de l'Institut de la statistique du Québec, qui nous a parlé d'une recherche en santé mentale chez les jeunes. Et notre collaborateur, Jean-François Plouf, nous a parlé pour sa part de délais et gardes provisoires en santé mentale. C'était donc le Minute Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeau à l'animation. Passez une belle semaine et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.